11 septembre. Très chère Varvara Alexeïevna, au nom du ciel, ma très chère amie, je vous en supplie, ne me quittez pas maintenant. Ne vous éloignez pas à l'instant où je suis devenu heureux, tout à fait content de ma vie. Ma tourterelle, n'écoutez point les conseils de Fedora, et sachez que je me comporterai toujours de la façon que vous le désirez. Je me conduirai bien, ne fût-ce que par respect déjà pour son excellence. Je me conduirai très bien, je serai correct et consciencieux. Nous continuerons à nous écrire des lettres heureuses et satisfaites. Nous nous confierons l'un à l'autre comme deux amis nos pensées. Nous partagerons nos joies et nos soucis, si toutefois nous devions avoir des soucis encore. Nous vivrons ensemble dans la joie et dans l'harmonie. Nous nous occuperons de littérature, mon doux ange, voulez-vous ? Mon destin a complètement changé, et pour le mieux. Ma logeuse, par exemple, est devenue beaucoup plus tolérante. Thérèse se trouve être moins sotte que je ne l'avais cru, et Faldoni lui-même commence à donner des preuves d'agilité et de souplesse. Pour ce qui est de Nataziaïev, je me suis réconcilié avec lui. Je suis allé le voir le premier dans la grande joie qui m'emplissait. C'est un très bon garçon, ma petite mère, sachez-le, et le mal qu'on m'en avait dit de lui n'était que bavardage inepte. J'ai pu me convaincre, tout cela ne fut qu'une basse calomnie. Jamais, au grand jamais, il n'avait eu l'idée de nous décrire, de faire de nous le sujet d'un roman. Il me l'a assuré lui-même. Il m'a lu quelques pages de sa dernière œuvre. Quant à ce terme de « loveless » qu'il m'avait lancé autrefois, il paraît que ce n'est pas du tout une insulte ou un mot inconvenant. Il m'en a expliqué le sens, c'est une expression empruntée à une langue étrangère et qui signifie quelque chose comme un gaillard qui a de l'allure et de l'audace, ou, pour le dire avec plus d'élégance dans un style plus littéraire, un monsieur qui sait ce qui lui est dû. Voilà le vrai sens de ce mot. Il ne s'agissait donc pas d'une allusion déplaisante. Ce fut une plaisanterie inoffensive, mon doux ange. Je ne suis qu'un ignorant, et c'est pourquoi je m'étais sottement offensé de la chose. Mais tout est en règle maintenant, et je lui ai présenté des excuses. Oh, il fait d'ailleurs si beau aujourd'hui, Varinka, tant merveilleux et si doux. Il est vrai qu'il a gelé légèrement le matin avec un peu de giboulée dans l'air, mais ce n'est rien. En revanche, l'air est devenu plus frais. Je suis allé m'acheter des chaussures, et j'en ai trouvé une paire qui est vraiment admirable. Ensuite, j'ai fait une promenade sur la perspective Nevski. J'ai lu un numéro de L'Abeille. Ah oui, j'oubliais l'essentiel. Il faut que je vous le raconte. Voici de quoi il s'agit. Ce matin, je me suis entretenu avec Emilien Ivanovitch et Hyacinthe Mikhailovitch au sujet de son excellence. Oui, Varinka, il paraît que je ne suis pas le seul envers qui il s'est montré si généreux. D'autres que moi ont connu ses bienfaits également, et sa grande bonté de cœur est connue partout. Nombreux sont ceux qui chantent ses louanges, et dans ma logis on verse des larmes de reconnaissance en parlant de lui. Il avait accueilli une orpheline dans sa maison, il a veillé sur son avenir, il l'a donnée en mariage à un homme considérable, un fonctionnaire de son cabinet. Il s'est occupé du fils d'une veuve, et l'a casé dans une administration. Oh, il a accompli bien d'autres actions charitables encore. En apprenant tout cela, ma petite mère, j'ai jugé de mon devoir d'entonner mon petit hymne en son honneur, moi aussi, et j'ai raconté à tous à haute voix le geste que son excellence a eu envers moi. Je leur ai dit toute la vérité sans rien leur cacher. J'ai mis ma honte dans ma poche. Il s'agit bien de honte en vérité et d'amour-propre personnel en présence d'une telle magnanimité. J'ai donc clamé la vérité afin que nul n'ignore la grandeur d'âme de son excellence. J'ai parlé avec ferveur, avec chaleur, sans rougir et me sentant tout au contraire fier d'avoir à raconter une telle chose. Je leur ai tout confié. Je ne me suis tu, ma petite mère, qu'en ce qui vous confère ainsi qu'il se devait. Mais démêlé avec ma logeuse et avec Faldoni, je leur ai parlé de Nastasiaev, de mes chaussures et de Markov. Bref, je leur ai tout dit, absolument tout. Certains d'entre eux ont souri, il est vrai, par moments. Pour dire la vérité, ils ont même tous souri ou ri légèrement. Sans doute y avait-il quelque chose de drôle dans mon visage ou dans mon allure, ou bien est-ce l'histoire de mes chaussures qui les a amusés? Oui, c'est cela, c'était les chaussures. Car ils ne pouvaient pas plaisanter dans un mauvais esprit, j'en suis certain. Ils ont ri parce qu'ils sont jeunes, peut-être aussi parce qu'ils sont riches, mais ils n'ont certainement pas songé à se moquer de mes paroles. Ils ne pouvaient pas tourner en dérision des louanges adressées à son Excellence. Cela s'est tout à fait exclu, ne le croyez-vous pas, Varinka? Je ne suis pas arrivé jusqu'ici à me ressaisir pleinement, ma petite mère. Tous ces événements m'ont tellement troublé. Avez-vous assez de bois pour vous chauffer? Prenez garde de ne pas prendre froid, Varinka. Un rhume est si vite attrapé. Oh, ma petite mère, vous me tuez, savez-vous, avec vos idées tristes. Je ne fais que prier Dieu pour vous. Et si vous saviez comment je prie, ma petite mère? Dites-moi, par exemple, avez-vous des chaussettes de laine ou à tout le moins quelque chose de chaud à vous mettre sur le corps? Soyez prudente, ma tourterelle. S'il vous manquait quelque chose, je vous en supplie pour l'amour de Dieu. N'offensez pas un pauvre vieillard. N'hésitez pas à vous adresser à moi en ce cas. Les temps difficiles sont loin. Ne vous faites pas d'inquiétude pour moi. L'avenir est souriant, il n'y aura désormais que de beaux jours clairs et heureux. Oh, que ces temps furent difficiles et douloureux, Varinka. Bah, c'est passé maintenant, n'en parlons plus. D'ici quelques années, on ne s'en souviendra même pas de cette époque. Je me rappelle mes années de jeunesse. Ah, quel temps! Je n'avais pas un copec en poche certains jours. J'avais froid, j'avais faim. Mais quelle joie dans l'âme à n'en plus finir. Il m'arrivait le matin de faire une promenade sur le Nevski, d'apercevoir un joli minois, et c'en était assez pour me rendre heureux jusqu'au soir. Oh, quel temps, quel beau temps ce fut là, ma petite mère. Qu'il fait bon vivre en ce monde, Varinka. Qu'il fait bon à Saint-Pétersbourg, surtout. Hier, je me suis repenti en pleurant. Je me suis repenti devant Dieu. J'ai prié le Seigneur de pardonner les péchés auxquels je me suis laissé entraîner durant cette sombre période. Les murmures de révolte, les tendances au libéralisme, la débauche et les jeux de hasard. Je vous ai mentionné dans ma prière avec une émotion si profonde. Vous seul, mon doux ange, m'avez donné des forces. Vous m'avez consolé et réconforté. Vous m'avez guidé avec de bons conseils et de sages recommandations. Oh, cela, ma petite mère, je ne l'oublierai jamais. Aujourd'hui, j'ai pris vos lettres et je les ai embrassées toutes l'une après l'autre. Oui, ma tourterelle. Adieu maintenant, ma petite mère. On m'a dit qu'il y avait non loin d'ici un costume à vendre d'occasion. Je vais me renseigner. Adieu, mon doux ange, adieu. Votre ami profondément dévoué, Makar Dievushkin. Très cher monsieur Makar Alexeyevitch, 15 septembre. Bon, je suis tout à fait bouleversé. Écoutez donc ce qui nous est arrivé. Je dois dire que je pressentais un événement fatal depuis quelque temps déjà. Mais jugez vous-même, mon inestimable ami. Monsieur Bykov est à Saint-Pétersbourg. Fedora l'a rencontré, il a fait arrêter sa voiture en l'apercevant, s'est approché de Fedora et a voulu savoir où elle habite maintenant. Elle a refusé tout d'abord de le lui dire. Il lui a déclaré ensuite, avec un petit rire sarcastique, qu'il savait qui elle hébergeait chez elle. Oh, c'est sûrement Anna Fyodorovna qui lui a tout raconté. Alors, Fedorovna ne peut plus se contenir. Là, dans la rue, elle l'a invectivé, l'a assailli de reproches, lui lançant qu'il était un homme dénué de moralité et qu'il avait été cause de tous mes malheurs. Il a répondu en affirmant qu'il n'est pas étonnant qu'on se trouve malheureux quand on est sans le sou. Fedora a répliqué que j'aurais pu parfaitement vivre par mon travail, que je me serais marié ou que j'aurais pris un emploi, mais que mon bonheur est maintenant brisé pour toujours et qu'avec cela, je suis malade et ne tarderai pas à mourir. À quoi il a observé que je suis bien jeune encore, que je me mets des idées stupides dans la tête et que nos vertus ont, semble-t-il, pâli. Ce sont ses propres mots. Nous avons conclu, Fedora et moi, qu'il ignorait notre adresse. Mais imaginez-vous qu'hier, alors que je venais de sortir pour faire quelques emplettes aux arcades, Gostini, il est tout à coup entré dans notre chambre. Apparemment, il ne souhaitait pas me trouver chez moi. Il a longuement questionné Fedora sur notre train de vie. Il a minutieusement examiné les lieux, s'est intéressé à mon travail de couture, puis a demandé à brûle-pourpoint « Qui est donc ce fonctionnaire avec lequel vous entretenez des relations d'amitié ?» Il se trouvait que vous traversiez la cour juste à ce moment-là, et Fedora vous a désigné. Il a jeté un regard sur vous et il a souri. Fedora l'a supplié alors de partir, lui disant que les chagrins m'avaient déjà rendu malade et qu'il me serait extrêmement désagréable de le voir chez nous. Il se tut un moment, puis il expliqua qu'il était venu en passant et par désœuvrement, sans but aucun. Il voulut donner 25 roubles à Fedora, qui naturellement les refusa. Mais alors que signifie cette visite? Que voulait-il de nous? Je n'arrive pas à comprendre où il peut être si bien renseigné sur nous. Je me perds en hypothèses. Fedora prétend qu'Axinia, sa belle-sœur, qui vient chez nous parfois, connaît la blanchisseuse Anastasie et que le cousin d'Anastasie a un emploi de garde dans un ministère où travaille également un ami du neveu d'Anna Fyodorovna. Je me demande pour cette raison si des cancans n'auraient pas pu leur parvenir par cette voie. Il est impossible d'ailleurs que Fedora se trompe. Oh, nous ne savons en vérité que penser de tout cela. Se pourrait-il réellement qu'ils reviennent chez nous? Oh, cette seule pensée me remplit d'épouvante. Quand Fedora m'a mis au courant hier soir de ce qui s'était passé, je me suis effrayé au point que j'ai failli m'évanouir de peur. Mais que leur faut-il encore? Je ne veux plus les connaître maintenant. Pourquoi s'obstinent-ils à s'occuper de moi, malheureuse que je suis? Oh, quelle crainte je ressens à cette heure! Il me semble que Bykov va entrer d'un instant à l'autre. Oh, que va-t-il m'arriver en ce cas? Que me prépare encore le destin? Oh, pour l'amour de Christ, venez me voir sans tarder, Makar Alexievitch. Venez, je vous en supplie, venez.
« 18 septembre. Ma petite mère Varvara Alexeyevna. Il nous est arrivé aujourd'hui dans notre appartement un événement extrêmement triste, absolument inexplicable et inattendu. Notre pauvre Gorshkov, il faut que je vous le dise en passant, ma petite mère, a pu se réhabiliter complètement. Le tribunal s'était déjà prononcé sur son cas il y a longtemps, et il s'y est rendu aujourd'hui pour prendre connaissance de l'arrêt définitif. L'affaire s'est terminée de façon très satisfaisante pour lui. Même s'il a pu commettre des erreurs de négligence et d'imprudence, il a été acquitté sur tous les points. Le tribunal a ordonné de lui faire verser, sur les biens saisis du marchand, la somme considérable qui lui était due, si bien que sa situation matérielle s'est grandement améliorée elle aussi. Son honneur n'est plus entaché par ailleurs, en sorte que tout va mieux pour lui. Bref, ses vœux ont été entièrement exaucés. Il est rentré à la maison à 3 heures avec un visage bouleversé, pâle comme un linge. Ses lèvres tremblaient, mais il souriait. Il a embrassé sa femme et ses enfants. Nous nous sommes tous précipités chez lui pour le féliciter. Il parut vivement touché par notre attitude, ne cessait de saluer de tous les côtés et serra à plusieurs reprises la main de chacun. Il m'a semblé même qu'il avait grandi physiquement, comme si sa taille s'était redressée, et je crois que la petite larme habituelle ne collait plus à ses cils. Oh, il était si bouleversé, le malheureux, et ne pouvait tenir 2 minutes en place. Ses mains s'emparaient constamment d'un objet ou d'un autre, puis le rejetaient ensuite sans plus de raison, et il souriait sans arrêt, saluait, s'asseyait, se levait de nouveau et se rasseyait encore, tout en parlant sans beaucoup de suite dans les idées. Il disait des choses dans le genre de « Ah, mon honneur, ma réputation, mes enfants, mon bon renom !» Et à un moment donné, il s'est mis à sangloter. Nous aussi, nous avions pour la plupart des larmes aux yeux. Ratazyaïev, désirant sans doute le réconforter, lui dit en lui tapant amicalement l'épaule, « Voyons, mon brave, à quoi bon vous préoccuper d'honneur quand vous n'avez rien à manger ?»« L'argent, mon cher, l'argent, voilà ce qu'il vous fallait. Remerciez Dieu de vous avoir accordé cette somme, car c'est de cela qu'il faut être surtout reconnaissant. » Oh, j'ai eu l'impression, en cet instant, que Gorshkov s'est vexé. Non qu'il ait manifesté quelque mauvaise humeur, mais il a jeté un regard étrange sur Ratazyaïev et a écarté sa main de son épaule. Mais c'est une attitude qu'il n'aurait pas eue auparavant, ma petite mère. À chacun son caractère, du reste. Moi, par exemple, je ne me serais pas montré si fier dans un tel moment de bonheur. Mais ne nous arrive-t-il pas, ma petite mère, de faire parfois un salut de trop et de nous imposer un geste d'humilité supplémentaire sans autre motif qu'un accès de bonté par simple tendresse excessive du cœur? Mais laissons cela, et ce n'est pas de moi qu'il s'agit en ce moment. « Oui, dit Gorshkov, l'argent me réjouit aussi. Dieu soit loué, Dieu soit loué. » Et il ne fit que répéter ensuite, durant tout le temps que nous fûmes là, « Dieu soit loué, Dieu soit loué. » Alors sa femme commanda un dîner plus fin et plus copieux que d'habitude, et notre logeuse voulut le préparer elle-même. Notre logeuse est à sa façon une brave femme, en certaines choses du moins. Et Gorshkov allait et venait continuellement avant le dîner. Il entrait chez tout le monde, que l'on l'ait appelé ou non. Il pénétrait dans les chambres, souriait, prenait place sur une chaise, disait quelques mots, restait silencieux, puis partait tout à coup. Chez l'enseigne de vaisseau, il alla jusqu'à prendre des cartes en main. On le prit comme 4e partenaire. Il joua quelques instants, s'embrouilla dans ses cartes, fit 2 ou 3 passes et se leva brusquement. « Non, on l'a dit, non, c'était pas sérieux. J'ai voulu voir et il s'en alla. M'ayant rencontré dans le couloir, il me saisit les 2 mains et me regarda droit dans les yeux, de façon certes un peu bizarre, après quoi il s'éloigna, toujours souriant. Mais son sourire avait quelque chose de lourd. Il faisait une impression pénible, on eût dit le sourire d'un mort. Sa femme pleurait de joie. Pour une fois, la gaieté régnait chez eux, Il y avait comme une atmosphère de fête dans leur chambre. Ils dînèrent avec une sorte de hâte. Après le repas, il dit à sa femme « Écoutez, ma chère, je désire me reposer un peu. » Et il s'étendit sur le lit. Il appela sa fille, lui posa la main sur la tête et lui caressa longuement les cheveux. Ensuite, il se tourna vers sa femme. « Et Petya, notre Petinka, où est-il, Petinka ?» Sa femme se signa et lui répondit avec effroi que leur fils était mort et qu'il le savait bien. « Ben oui, je le sais, je sais tout, je sais que Petinka est maintenant dans le royaume des cieux. » Sa femme se rendit compte alors qu'il ne se trouvait pas dans son état normal, que l'événement l'avait trop profondément remué, et elle lui dit « Oh, vous feriez mieux, mon cher, de dormir quelques instants ?»« Oui, en effet, » fit-il, « oui, tout de suite, un peu. » Il se détourna, demeura quelques minutes sans bouger, puis de nouveau se retourna vers sa femme et voulut, semble-t-il, prononcer quelques mots. Sa femme, ne l'entendant pas bien, lui demanda « Que désirez-vous, mon ami ?» Mais il ne répondit pas. Elle attendit quelques secondes, puis se dit qu'il avait dû s'endormir. Elle se rendit chez notre logeuse et bavarda une petite heure avec elle. Quand elle revint dans la chambre, elle vit que son mari ne s'était pas encore réveillé et demeurait immobile sur son lit. Elle pensa qu'il dormait, s'assit sur une chaise et prit un travail. Elle affirme qu'elle se plongea alors dans ses réflexions et qu'une demi-heure s'écoula ainsi. Elle ne se souvient même pas de l'objet de ses méditations et prétend simplement qu'elle avait oublié complètement pendant ce temps la présence de son mari. Elle est revenue brusquement à la réalité à cause d'une sensation inquiétante qu'elle venait d'éprouver et l'étrange silence, le silence sépulcral qui régnait dans la pièce la frappa tout d'abord. Elle jeta un coup d'œil sur le lit et remarqua que son mari n'avait pas changé de position. Elle s'approcha de lui, souleva la couverture, et c'est à ce moment seulement qu'elle s'aperçut qu'il était déjà froid. « Il est mort, ma petite mère, Gortchoff est mort. »« Ah, il est mort, subitement, comme s'il avait été foudroyé. »« Quant à la cause de son décès, je l'ignore complètement. »« Oh, j'ai été tellement saisi, tellement frappé par cet événement, Varinka, que je ne suis pas encore revenu à moi en ce moment. » Je n'arrive pas à croire qu'un homme puisse mourir comme cela d'un instant à l'autre. Pauvre, pauvre Gortchkov qui a connu tant de malheurs. Oh, quel destin, quel destin. Sa femme est toute en larmes, elle a l'air si apeurée. La fillette s'est blottie dans un coin et y demeure sans remuer. Il y a dans la chambre un grand va-et-vient. On parle d'une enquête médicale. Je ne sais pas exactement, et puis vous donner des détails à ce sujet. Mais cela me fait tant de peine, oh, tant de peine pour eux. Il est triste de songer que véritablement l'on ne sait ni le jour ni l'heure. On peut mourir bêtement à un moment où on s'y attend le moins. Votre Makar Dievushkin. September 19. Chère Madame Varvara Alexeyevna, je me hâte de vous informer que mon ami Ratazieff m'a procuré du travail à faire pour un écrivain. C'est un auteur qui est venu lui rendre visite et lui a remis un manuscrit très épais en sorte que la besogne ne manquera pas, Dieu merci. Malheureusement, l'écriture en est à tel point illisible que je me demande comment je parviendrai à la déchiffrer. D'autre part, on exige que je le recopie dans un délai très bref, car c'est urgent. Il est question de beaucoup de choses auxquelles j'ai l'impression de ne rien comprendre. Nous avons convenu d'un prix de 40 kopecks par feuille. Oh, je vous indique tous ces détails, ma chère amie, afin que vous sachiez que j'aurai désormais de l'argent de trop. Pour l'instant, adieu, ma petite mère, je vais me mettre à la tâche immédiatement. Votre ami dévoué, Makar Yevushkin. 23 septembre. Mon très cher ami Makar Alexeyevitch, voilà 7 jours, mon ami, que je ne vous ai pas écrit, et j'ai eu, durant ce temps, pas mal de préoccupations et de sujets d'agitation. Avant-hier, Bikoff est venu me rendre visite. Je me trouvais seul à ce moment, car Fedora était sorti. Je lui ai ouvert la porte, et en l'apercevant, j'ai été saisi de frayeur, si bien que je fus incapable d'esquisser le moindre mouvement. Oh, je me sentis pâlir. Il est entré, selon son habitude, en faisant résonner son rire bruyant, a pris une chaise lui-même et s'est assis. Je demeurai longtemps sans pouvoir me ressaisir. Finalement, j'allais me réfugier dans un coin de la pièce et je me plongeai dans mon travail. Bientôt, il cessa de rire. Il semble que mon aspect l'ait frappé. J'ai tellement maigri ces derniers temps. Mes joues se sont affaissées, mes yeux se sont creusés. J'étais pâle comme un linge. Ceux qui m'ont connu il y a une année doivent avoir de la peine en effet à me reconnaître. Il m'examina longuement et avec une grande attention. Puis il redevint gai. Il fit une remarque dont je ne me souviens plus. Je ne sais pas ce que je lui ai répondu, mais il s'est remis à rire en m'entendant. Il est resté chez moi toute une heure et m'a parlé sans arrêt, me posant de nombreuses questions. Enfin, au moment où il allait prendre congé, il me prit la main et me dit, alors je reproduis textuellement ses paroles, « Varvara Alexeyevna, je dois constater entre nous qu'Anna Fiodorovna, qui est votre parente et avec qui je suis lié d'une grande amitié, est une femme très méprisable et vile. » Il employa un autre mot encore, mais qui est inconvenant. « Elle a fait prendre le mauvais chemin à votre petite cousine. Elle vous a mené à votre perte, vous aussi. » De mon côté, je me suis conduit en cette circonstance comme un lâche, mais que faire? C'est là une histoire banale et courante. Et il éclata de rire à ces mots. Il riait à gorge déployée. Il observa ensuite qu'il ne savait pas faire de grands discours, qu'il m'avait déjà déclaré l'essentiel, et que sa conscience lui dictait de me dire, parce que l'honneur l'exigeait ainsi, et qu'il serait bref sur le reste. Il m'expliqua alors, sans périphrase, qu'il désirait m'épouser, qu'il estimait de son devoir de me restituer mon honneur, qu'il est riche, qu'il m'amènera après le mariage dans ses terres où il compte s'adonner à la chasse aux lièvres. Il a ajouté qu'il ne reviendrait plus jamais à Saint-Pétersbourg parce que c'est une ville ennuyeuse et malsaine, qu'il possède ici un neveu, lequel est, selon sa propre expression, un vaurien, et qu'il s'est juré de le déshériter. C'est même pour cette raison, m'a-t-il indiqué, qu'il tient à m'épouser, afin d'avoir des héritiers légitimes, et c'est le motif essentiel de sa démarche auprès de moi. Il m'a fait observer ensuite que je vis très pauvrement, qu'il n'est pas étonnant que je sois malade en habitant dans un tel taudis. Il m'a prédit la mort à bref délai, au cas où je m'obstinerais à demeurer ici, ne fût-ce qu'un mois encore. Il remarqua que les appartements ne valent rien à Saint-Pétersbourg, et me demanda finalement si je n'avais besoin de rien. J'étais tellement éberlué par cette proposition que, sans savoir pourquoi, je me mis à pleurer. Il crut que je versais des larmes de gratitude. Il me dit qu'il m'avait toujours considéré comme une jeune fille bonne, sensible et instruite, mais qu'il ne s'était pas décidé néanmoins à sa démarche présente avant de s'être informé en détail de ma conduite actuelle. Il m'a posé alors quelques questions à votre sujet. Il m'a dit qu'il était au courant de tout, que vous êtes un homme de toute moralité, qu'il ne veut pas rester en dette vis-à-vis de vous, et il aimerait savoir si la somme de 500 roubles représenterait à vos yeux un dédommagement suffisant pour tout ce que vous avez fait dans mon intérêt. Quand je lui répondis que vos bienfaits envers moi sont de ceux qu'aucune somme d'argent ne saurait rémunérer, il s'écria que tout cela n'était que sottise, que c'était du roman, que je suis jeune encore et que j'aime lire des vers sans doute, mais que les romans sont la perdition des jeunes filles, dont il gâte la moralité et qu'il déteste tous les livres en général. Il m'a conseillé d'attendre que j'aie quelques années de plus pour porter des jugements sur les gens. « Vous apprendrez alors à les connaître, » ajouta-t-il. Il m'engagea ensuite à réfléchir mûrement à sa proposition. Il lui serait très désagréable que je prenne à la légère et superficiellement une décision aussi grave. Il observa que l'irréflexion et l'entraînement de la passion mènent les jeunes gens inexpérimentés à leur perte, mais qu'il souhaite vivement pour sa part que je lui donne une réponse favorable. Dans le cas contraire, il se verrait en effet obligé d'épouser une commerçante de Moscou, car il a juré, m'a-t-il répété, de déshériter son vaurien de neveu. Il m'a laissé 500 roubles, qui m'a presque forcé d'accepter, afin que je puisse m'acheter des bonbons, m'a-t-il expliqué. Il assure que dans son village, je ne tarderai pas à engraisser, que je deviendrai rondelette et que je vivrai chez lui dans l'abondance et la satiété. Il m'a fait remarquer ensuite qu'il était extrêmement occupé ces jours-ci, qu'il avait un grand nombre d'affaires à régler et qu'il était venu chez moi en passant entre deux rendez-vous sérieux. Et il est parti après cela. J'ai longuement réfléchi ensuite. Oh, j'ai médité sans fin. Je me suis tourmenté avec mes pensées. Et puis, mon ami, je me suis décidé finalement. J'ai résolu, mon ami, de l'épouser. Il faut que j'accepte sa proposition. C'est le seul homme qui ait la possibilité de me sauver du déshonneur, de me rendre un nom intact, de m'épargner la misère, les privations et les malheurs dans l'avenir. Que puis-je espérer d'autre désormais? Que dois-je encore attendre du destin? Fedora m'assure qu'il faut savoir saisir le bonheur par les cheveux. Elle assure, qu'est-ce donc que le bonheur après tout? Pour ce qui est de moi, en tout cas, je n'entrevois pas d'autre issue, sachez-le, mon inestimable ami. Que faire? Je me suis déjà abîmé la santé en travaillant, il me serait impossible de continuer toujours ce travail. Prendre un emploi dans une famille, j'y mourrais de tristesse, et personne ne voudrait de moi d'ailleurs, je suis de constitution maladive, et je serais pour cette raison un fardeau pour les autres. Certes, oh, ce n'est point le paradis que je choisis là, je le sais. Mais que dois-je faire, mon ami? Que dois-je faire? En vérité, je n'ai pas le choix. Je ne vous ai pas demandé conseil. J'ai voulu peser moi-même tous les aspects de la situation. La résolution que je viens de vous communiquer est irrévocable. J'en ferai part tout à l'heure à Bykov, qui insiste pour obtenir une réponse définitive. Il me presse maintenant, prétendant que les affaires n'attendent pas, qu'il doit repartir et qu'il ne peut pas retarder son voyage pour des futilités. Dieu seul si je trouverai le bonheur là-bas, et mon destin repose dans sa sainte et impénétrable volonté. Mais j'ai pris ma résolution. On dit que Baïkov est un grand homme. Il aura du respect pour moi, et peut-être que j'apprendrai à le respecter, lui aussi. Peut-on espérer davantage de notre union? Je vous fais part de la situation, Makar Alexeyevitch. Je suis sûr que vous comprendrez ma tristesse. Ne cherchez pas à me détourner de mon intention. Vos efforts dans ce sens demeureraient vains. Pesez plutôt dans votre propre cœur toutes les raisons qui m'ont incité à prendre cette décision. J'étais très tourmenté au début, mais je suis tout à fait calme actuellement. J'ignore ce que l'avenir me réserve. Il adviendra ce qu'il adviendra. Il en sera selon la volonté de Dieu. Obikov vient d'arriver et j'interromps cette lettre qui n'est pas achevée. J'avais beaucoup de choses à vous dire encore. « 23 septembre. Ma petite mère Varvara Alexeyevitch, je me hâte, ma petite mère, de vous répondre. Je m'empresse, ma petite mère, de vous dire que je suis stupéfait. Oh, tout cela est étrange, contradictoire. Hier, nous avons enterré Gorshkov. Oui, Varinka, c'est donc ainsi. Varinka, c'est ainsi. Bikov s'est conduit en homme d'honneur. Seulement, voyez-vous, ma chère amie, voilà que vous acceptez tout à coup. Certes, nos destins dépendent de Dieu. C'est ainsi, je le sais, cela doit être ainsi. Je veux dire que la volonté de Dieu doit absolument s'accomplir, et c'est sans doute sa volonté. Les intentions du Très-Haut sont incontestablement profondes et justes, mais impénétrables. Et nos destinées aussi. Nos destinées sont comme ses intentions. Bikov vous veut du bonheur, j'en suis sûr. Il est évident que vous serez heureuse maintenant, ma petite mère, que vous vivrez dans l'abondance, ma tourterelle, mon petit ange adorable, mon oisillon. Seulement, Varinka, seulement, pourquoi y mettre tant de hâte? Les affaires, oui, je sais, les affaires. Monsieur Bikov est très occupé, bien sûr. Qui donc n'est pas occupé en ce monde? Et cela peut lui arriver aussi. Je l'ai aperçu au moment où il sortait de chez vous. C'est un homme imposant, très imposant. Je dirais même qu'il est presque trop imposant. Mais tout cela n'est pas tout à fait clair. Ce n'est pas de son air imposant qu'il s'agit. Et puis, j'ai l'esprit un peu égaré en cet instant. Je ne trouve pas facilement mes idées. Il y a surtout ceci. Comment ferons-nous maintenant pour continuer à nous écrire? Et moi donc, vais-je rester seul désormais? Oui, mon doux ange, j'ai tout pesé. J'ai tout considéré, comme vous me l'avez demandé vous-même. J'ai tout pesé dans mon cœur, toutes ces raisons que vous me dites. J'allais achever la copie de la 20e feuille et voilà que tous ces événements me tombent sur la tête. Vous allez partir, ma petite mère, et il vous faudra faire différents achats pour le voyage, des chaussures, une robe. Je connais justement un magasin à la rue Gorohorvaya. Vous vous souvenez encore de la description que je vous en ai faite? Mais non, voyons. À quoi songez-vous, ma petite mère? Réfléchissez. Vous ne pouvez pas partir maintenant. C'est impossible, absolument impossible. Vous avez tant d'emplettes à faire auparavant, et vous aurez besoin d'une voiture, d'un équipage privé. En outre, le temps s'est gâté. Vous voyez, il pleut à verse en ce moment. Mais c'est une mauvaise pluie, une pluie humide, et... En outre, vous aurez froid, mon doux ange, vous aurez froid moralement. Vous, qui craignez tant les gens, vous vous êtes décidé à partir. Et moi, avec qui resterai-je ici? Vais-je être seul? Eh oui, votre Fedora assure que c'est votre bonheur là-bas. Oh, c'est une femme violente, et elle ne songe qu'à ma perte. Viendriez-vous aux vêpres ce soir, ma petite mère? Je m'y rendrai volontiers pour vous voir. C'est tout à fait exact, ma petite mère. C'est absolument vrai que vous êtes une jeune fille vertueuse, sensible et instruite. Mais il vaudrait mieux, à mon avis, qu'il épouse cette marchande. Ne le pensez-vous pas, ma petite mère? Il serait préférable qu'il choisisse cette marchande, mais qu'il l'épouse donc. Je ferai un saut chez vous, ma bonne Varinka. Dès que le soir sera tombé, je passerai chez vous pour une petite heure. Le crépuscule vient de bonne heure en cette saison et j'irai vous trouver. En ce moment, vous attendez Bykov, et quand il sera parti, nous verrons. Attendez ma visite, ma petite mère, je viendrai ce soir. Makar Dievushkin. « 27 septembre. Mon cher ami, cher Makar Alexeyevitch, Monsieur Bykov prétend que je dois avoir absolument 3 douzaines de chemises en toile de Hollande. Il faudrait donc trouver au plus vite 2 lingères pour 2 douzaines de chemises encore, car il ne nous reste que peu de temps. Monsieur Bykov s'impatiente et dit que ces histoires de chiffons traînent trop. Notre mariage aura lieu dans 5 jours et nous partirons dès le lendemain. Monsieur Bykov désire hâter les choses. Il assure qu'il ne faut pas perdre du temps pour des futilités. Oh, je suis exténué à cause de tous ces soucis. Et c'est à peine si je tiens sur mes jambes. J'ai une masse de choses à régler. Oh, j'en ai par-dessus la tête, et je me demande s'il n'aurait pas mieux valu renoncer à toute cette histoire. À propos, nous n'avons pas assez de dentelles et de guipures. Il faudrait donc en racheter, car M. Bykov déclare qu'il ne souffrirait pas que sa femme soit vêtue comme une cuisinière, et qu'il est indispensable que je rabatte le caquet à toutes les femmes des propriétaires du voisinage. Ce sont ses propres propos. C'est pourquoi, Makar Alexeyevitch, je vous prie d'aller trouver Madame Chiffon à la rue Gorohoroya. Dites-lui, premièrement, de nous envoyer des lingères et demandez-lui, en second lieu, de bien vouloir passer chez moi. Je suis souffrante aujourd'hui. Il fait si froid dans notre nouveau logis et tout y est en désordre. La tante de M. Bykov est si vieille qu'elle respire à peine. Je crains tout le temps qu'elle ne meure avant notre départ. Mais M. Bykov assure que ce n'est rien, qu'elle reprendra des forces. Tout est sans dessus-dessous dans la maison. M. Bykov ne vit pas avec nous, si bien que les domestiques s'absentent à tout bout de champ. On ne sait jamais où les trouver. Il arrive par moments que Fedora soit seule à nous servir. Quant au valet de chambre de M. Bykov, qui devait veiller à tout, voilà 3 jours qu'il est parti sans rien dire. M. Bykov vient nous voir chaque matin, gronde constamment et a même rossé hier le gérant de la maison, à la suite de quoi il a eu des difficultés avec la police. J'ignorais par qui vous faire porter ma lettre, alors j'ai recours à la poste pour vous la faire parvenir. Ah oui, j'allais oublier l'essentiel. Dites à Madame Chiffon qu'il faut absolument qu'elle change les guipures en se conformant à l'échantillon examiné hier, et qu'elle vienne elle-même chez moi pour me montrer un nouveau choix. Dites-lui aussi que j'ai changé d'avis au sujet du kanzu. Il faudra le faire au petit point. Et puis, les initiales sur les mouchoirs devront être faites au tambour, vous m'entendez? Au tambour et non pas à plat. Faites bien attention, n'oubliez pas que je veux un travail au tambour. Ah, j'allais oublier encore. Recommandez-lui, pour l'amour du ciel, de coudre les feuilles très haut sur la pèlerine. Je la renforcerai avec des baleines et d'entourer le col de dentelle ou d'un large falbala. N'oubliez pas, je vous en prie, de le lui dire, Makar Alexeyevitch. Votre D. Postscriptum. Oh, je me fais des scrupules de vous tourmenter ainsi avec mes commissions. Avant-hier, déjà, vous avez couru la ville toute la matinée pour moi. Mais que faire? Il n'y a aucun ordre dans notre maison, et je suis souffrante moi-même. Ne m'en voulez donc pas, Makar Alexeyevitch. Quelle tristesse, oh, que sortira-t-il de tout cela, mon ami, mon cher, mon brave, mon bon Makar Alexeyevitch. Je crains d'interroger l'avenir. Je suis poursuivi de pressentiments, et je vis comme dans un brouillard. Post-scriptum. Oh, pour l'amour du ciel, mon ami, n'oubliez rien de ce que je viens de vous confier. Je crains que vous ne vous trompiez ou ne fassiez une confusion. Souvenez-vous bien, au tambour, et non pas à plat. V.D. septembre. Très honorée Varvara Alexeyevna, j'ai rempli consciencieusement toutes les commissions dont vous m'avez chargé. Madame Chiffon prétend qu'elle avait songé elle-même à faire le travail au tambour et que c'est plus convenable ainsi, si j'ai bien compris, car je ne sais pas très bien ce qu'elle m'a dit à ce sujet. Ah, il y a encore ce falbala dont vous m'avez écrit, et elle m'a parlé de falbala elle aussi. Seulement, ma petite mère, je n'arrive pas à me souvenir de ce qu'elle m'a expliqué au sujet du falbala. Tout ce que je puis dire est qu'elle m'en a parlé longuement. Oh, c'est une femme impossible. De quoi peut-il s'agir? D'ailleurs, elle vous le répétera elle-même. Oh, je dois avouer, ma petite mère, que je me sens comme égaré. J'ai même manqué mon travail aujourd'hui. Croyez-moi, ma chère amie, c'est à tort que vous désespérez. Pour vous tranquilliser, je suis prêt à visiter tous les magasins de la ville. Vous m'écrivez que vous redoutez d'interroger l'avenir. Mais pourquoi donc, du moment que vous saurez tout, ce soir à 6 heures, Madame Chiffon viendra chez vous elle-même? Ne vous tourmentez pas. Gardez bon espoir, ma petite mère. Vous verrez que tout s'arrangera pour le mieux, comme je vous le dis. Quant à ce falbala, quant à ce maudit falbala, oh diable, tous ces falbala! Je serais venu vous voir, mon doux ange, j'aurais fait un saut chez vous, je serais venu certainement. Je me suis même approché à 2 reprises des portes de votre maison. Mais ce Bikoff, enfin pardon, je voulais dire monsieur Bikoff, a l'air si fâché, alors je ne me suis pas risqué. Oh, et puis quoi? Makar Dievushkin. septembre. Cher monsieur Makar Alexeyevitch, je vous en supplie, courez vite chez le joaillier. Dites-lui que je renonce aux pendants d'oreilles avec perles et émeraudes et qu'il faut les décommander. Monsieur Bikoff trouve que ce serait trop luxueux et trop cher surtout. Il est très fâché. Il prétend que nous faisons trop de dépenses, que nous le dévalisons. Il a même déclaré hier que s'il avait pu prévoir tous ses frais, il aurait évité de s'engager ainsi. Il dit que nous partirons tout de suite après la cérémonie du mariage, qu'il n'y aura pas d'invité, que je ne dois pas m'attendre à pouvoir danser et m'amuser, car les fêtes de fin d'année sont encore éloignées. Voilà comment il me parle. Oh, Dieu sait pourtant si j'avais besoin de toutes ces choses. C'est Monsieur Bikoff lui-même qui avait tenu à les commander au début. Pof, je n'ose pas lui répondre, il est si irascible. Que sera ma vie? VD. 28 septembre. Ma tourterelle Varvara Alexeyevna. Je, c'est-à-dire que le joaillier m'a dit que c'est en ordre. Quant à moi, j'avais voulu vous dire en commençant cette lettre que je suis malade, hors d'état de quitter le lit. Cela tombe bien au moment où il y a tant de choses à régler, où on a besoin de moi. Oh, ces rhumes, que le diable les emporte! Je dois vous informer également que pour parachever mes malheurs, Son Excellence a cru devoir faire preuve de sévérité aujourd'hui, s'emportant vivement contre Emilien Ivanovitch, si bien que Son Excellence se trouvait à bout de force finalement, l'infortuné, et avait le souffle coupé. Je vous fais part de tous ces ennuis. Je voulais vous parler d'autre chose encore, mais je crains de vous importuner, car je ne suis ma petite mère qu'un homme simple et sans instruction. J'écris comme cela ce qui me passe par la tête, et il se pourrait que vous trouviez ça et là, enfin bref, ouais, puis quoi. Votre Makar Dievushkin. 29 septembre. Varvara Alexeyevna, ma chère amie. J'ai vu Fedora aujourd'hui, ma tourterelle. Elle m'a dit que votre mariage est fixé pour demain, que vous partirez après-demain et que M. Bikoff a déjà retenu les chevaux. Pour ce qui est de Son Excellence, je vous en ai parlé dans ma dernière lettre. Ah oui, j'ai vérifié les factures du magasin de la rue Gorohovaïa. Les comptes sont exacts, je trouve leur prix très élevé. Mais pourquoi donc, Monsieur Bikoff, vous fait-il ces reproches? Bah, soyez heureuse, ma petite mère. Je me réjouis pour vous. Oui, je me réjouirai de vous savoir heureuse. Je me serais rendu à l'église, mais c'est impossible, car j'ai des douleurs aux hanches. Je reviens encore à cette question de correspondance qui me tracasse. Qui se chargera désormais de nous faire parvenir nos lettres, ma petite mère? À propos, vous avez été très généreuse envers Fedora, ma chère amie. Vous avez bien fait, ma chère. Vous avez très bien fait. C'est une bonne action, et le Seigneur vous bénira pour chacun de vos bienfaits. Les bonnes œuvres sont toujours payées de retour, et les vertus trouvent un jour ou l'autre leur récompense selon la justice divine, tôt ou tard. Oh, ma petite mère, il y a tant de choses dont j'aimerais vous parler. Je pourrais vous écrire comme cela toutes les heures, toutes les minutes même. Je vous aurai tout raconté, tout confié. J'ai encore chez moi votre livre, les Contes de Bielkin. Ne me le reprenez pas, ma petite mère. Faites-moi cadeau, ma tourterelle. Pauvre le pas que j'ai tellement envie de le lire. Mais l'hiver approche, vous le savez. Les soirées seront longues, je m'ennuierai. Je serai triste peut-être, alors ce sera une lecture pour me distraire. J'ai décidé, ma petite mère, de quitter ma chambre actuelle et de m'installer dans votre ancien appartement comme sous-locataire de Fedora. Pour rien au monde, je ne voudrais me séparer maintenant de cette brave femme. Avec cela, elle est si travailleuse. J'ai examiné en détail hier votre appartement abandonné et désert. Tout y est à la même place. Le châssis de couture n'a pas bougé, et le travail que vous étiez en train de faire s'y trouve encore dans l'angle de la pièce. J'ai regardé ce que vous aviez commencé à coudre. De petits morceaux d'étoffe traînent ça et là. Vous aviez même entouré un bout de fil autour de l'une de mes lettres. Dans le tiroir de votre table, j'ai découvert une feuille de papier sur laquelle il était écrit « Cher monsieur Makar Alexeyevitch, je me hâte de... » Et c'est tout. Quelqu'un apparemment a dû vous interrompre à l'endroit le plus intéressant. Dans un autre coin, derrière un paravent, j'ai vu votre petit lit. Oh, ma tourterelle! Adieu, maintenant adieu. Pour l'amour de Dieu, répondez-moi bien à cette lettre, répondez n'importe quoi, ne me faites pas attendre. Makar Dievushkin. Septembre 30. Makar Alexievitch, mon inestimable ami. Les destins sont accomplis. Mon sort est décidé. J'ignore ce qu'il sera, mais je me soumets à la volonté du Seigneur. Nous partons demain. Je vous dis adieu pour la dernière fois, mon inestimable ami, mon bienfaiteur, vous qui avez été pour moi comme un père. Ne vous laissez pas accabler par mon départ, vivez heureux. Souvenez-vous de moi, et que la bénédiction divine soit avec vous. Je penserai à vous souvent, très souvent, et je vous mentionnerai dans mes prières. Elle est finie maintenant, cette période de ma vie. Je n'emporte pas beaucoup de souvenirs heureux dans ma nouvelle existence. Il me sera d'autant plus agréable de me rappeler ce que vous avez été pour moi. La place que vous avez dans mon cœur n'en sera que plus grande. Vous êtes mon unique ami. Vous seul m'avez aimé ici. Car j'ai tout vu. Je sais combien vous m'aimiez. Mon sourire suffisait à vous rendre heureux. Une seule ligne de mes lettres pouvait vous remplir de joie. Il va falloir maintenant vous déshabituer de moi. Que ferez-vous désormais dans votre vie solitaire? Qui s'occupera de vous, mon inestimable, mon unique ami? Je vous laisse mon livre, mon châssis de couture, ainsi que la lettre commencée que vous avez trouvée dans mon tiroir. Lorsque vous regarderez ces lignes inachevées, vous pourrez les compléter en pensée, en y ajoutant tout ce que vous auriez aimé lire, tout ce que j'aurais pu vous écrire en réalité, et Dieu sait que je vous aurais écrit aujourd'hui. Pensez quelquefois à votre pauvre Varinka qui vous a tant aimé. Toutes vos lettres sont restées dans la commode de Fedora, dans le tiroir d'en haut. Vous me dites que vous êtes malade. Mais M. Bikoff ne veut pas que je sorte en ce moment. Je vous écrirai, mon ami, je vous le promets. Nul ne sait d'avance ce qui peut nous arriver. Je vous dis donc adieu pour toujours, mon ami, mon cher ami, mon frère, pour toujours. Oh, comme je vous aurais embrassé en cet instant. Adieu, mon ami, adieu, adieu. Soyez heureux, portez-vous bien. Je prierai pour vous éternellement. Oh, que je me sens triste en cette minute. Quel poids j'ai sur l'âme. Oh, monsieur Bikoff m'appelle. Votre ami qui vous aimera toujours. Postscriptum. Mon âme est pleine, mon âme déborde de larmes. Les sanglots comprimés dans ma poitrine m'étouffent. Adieu. Oh mon Dieu, que c'est triste. N'oubliez jamais votre malheureuse Varinka. Varinka, ma petite mère, ma tourterelle, mon adorable Varinka. On vous emmène, vous partez. Oh, ils auraient mieux fait de m'arracher le cœur de la poitrine plutôt que de vous éloigner de moi. Comment avez-vous pu? Voyez, vous pleurez et vous partez néanmoins. Là, je viens de recevoir une lettre de vous, une lettre toute trempée de larmes. C'est donc que vous n'avez pas envie de partir. C'est donc qu'on vous emmène de force. C'est donc que vous avez pitié de moi. C'est donc que vous m'aimez. Mais comment allez-vous vivre maintenant? Et avec qui? Là-bas, votre petit cœur se morfondra de tristesse, d'ennui et de solitude morale. La mélancolie le rongera, votre petit cœur. Le chagrin le fera éclater. Vous mourrez, et on vous ensevelira dans la terre humide, froide de ce lieu étranger, où il n'y aura personne pour pleurer sur vous. Monsieur Bykov n'en aura pas le temps. Monsieur Bykov ne songera qu'à chasser les lièvres. Oh, ma petite mère, mais pourquoi avez-vous pris cette décision? Comment avez-vous pu vous résoudre à une telle chose? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Quel crime vous avez commis envers vous-même? C'est la tombe que vous trouverez chez eux. Ils vous feront mourir, mon doux ange, car vous êtes de si faible constitution, ma petite mère. Mais où donc étais-je pendant ce temps? Où avais-je les yeux, imbécile que je suis? Au lieu de m'opposer carrément, eh bien non, idiot, idiot que je suis, je n'ai pensé à rien, je n'ai rien vu. Comme si tout ce qui est arrivé était juste, nécessaire, comme si tout cela ne me regardait en rien. Et je me démenais durant ces jours pour un falbala. Non, Varinka, non, je ne permettrai pas. Je me lèverai du lit. D'ici demain, je serai guéri peut-être, et je pourrai sortir. Je me jetterai, ma petite mère, sous les roues de la voiture, mais je ne vous laisserai pas partir. Voyons, vous n'y songez pas. De quel droit agit-on ainsi? Je partirai avec vous, je courrai derrière la voiture, si vous refusez de m'emmener, je courrai de toutes mes forces jusqu'à en rendre l'âme. Vous en doutez-vous seulement de ce qui vous attend là-bas, là où vous allez maintenant, ma petite mère? Peut-être l'ignorez-vous encore. Demandez-le-moi en ce cas. Vous ne verrez autour de vous que des steppes désolées, ma chère amie, des steppes, des plaines nues, s'étendant à l'infini de la terre nue, comme la paume de ma main. Les paysannes qui vivent dans ce pays sont insensibles, dures, et les moudjis grossiers sont ivres tout le temps. Les arbres ont perdu leurs feuilles en cette saison. Il y pleut, il y fait froid. Et c'est là que vous allez. Passe pour M. Bykov, qui a de quoi s'occuper. Il vivra avec ses lièvres. Mais vous, vous, que ferez-vous? Vous tiendrez votre rôle d'épouse d'un grand propriétaire, ma petite mère? Voyons, mon angelet, regardez-vous. Avez-vous l'air d'une femme de ce genre? Comment tout cela a-t-il pu arriver, Varinka? À qui vais-je écrire maintenant, ma petite mère? Eh oui, vous devriez vous le demander, ma petite mère, À qui va-t-il envoyer des lettres désormais? Qui pourrais-je appeler ma petite mère? À qui devrais-je donner ce nom si doux et si tendre? Où vous retrouverai-je ensuite, mon doux ange? J'en mourrai, Varinka, j'en mourrai sûrement. Mon cœur ne supportera pas un si grand malheur. Je vous ai aimé plus que la lumière du jour. Je vous ai aimé comme si vous étiez ma propre fille. J'ai tout aimé en vous, ma petite mère. C'est pour vous uniquement que je vivais d'ailleurs, pour vous seule. Je travaillais, je copiais des documents, je marchais, me promenais, je couchais mes impressions sur le papier sous forme de lettres amicales. Et tout cela parce que vous habitiez, ma petite mère, en face de moi, tout près. Vous l'ignoriez peut-être, mais c'était ainsi. Mais non, écoutez-moi, ma petite mère, réfléchissez, ma tourterelle. Comment pourriez-vous partir, nous quitter maintenant? Voyons, mon ami, c'est impossible. Vous n'êtes pas en état de faire ce voyage. Vous ne pouvez pas l'entreprendre. C'est exclu, absolument exclu. Il pleut en ce moment, et vous êtes si faible, vous prendrez froid. Votre voiture sera trempée, la pluie la traversera, c'est certain. D'ailleurs, elle se brisera, cette voiture, dès que vous aurez franchi la barrière des faubourgs. Elle se brisera exprès. Ignorez-vous donc qu'on construit très mal les châssis à Saint-Pétersbourg? Oh, je les connais, ces carrossiers. Pourvu que le châssis ait du style, qu'il ressemble à un jouet bien soigné, il ne s'inquiète guère de sa solidité. Je jure qu'il se brise comme de rien. Bon, je me jetterai à genoux devant M. Bikoff, ma petite mère, et je le lui prouverai, je le lui démontrerai. Et vous aussi, ma petite mère, vous le lui prouverez, vous lui expliquerez, avec des arguments raisonnables, décisifs, que vous devez rester ici, qu'il vous est impossible de partir. Oh, que l'a-t-il épousé, cette commerçante de Moscou? Il aurait mieux fait de la prendre pour femme. Une commerçante lui aurait convenu davantage. C'eût été infiniment plus indiqué pour lui. Je le sais, moi, je le sais fort bien, et je sais aussi pourquoi. Quant à vous, je vous aurais gardé ici, près de moi. Que vous est-il après tout, ce Bikoff? En quoi a-t-il su vous plaire tout à coup? Serait-ce peut-être parce qu'il vous a acheté des bas de Falbala? Est-ce la crainte raison par hasard? Mais qu'est-ce donc un Falbala? À quoi sert le Falbala? Vêtis que cela, ma petite mère. Il y va d'une vie humaine, tandis que le Falbala, ma petite mère, n'est qu'un misérable torchon. Voilà ce que c'est le Falbala, un torchon et rien de plus. Mais moi aussi, mais moi-même, je vous en achèterai des Falbalas. Je vous en achèterai dès que j'aurai touché mon traitement. Si, si, oh, j'en achèterai. Je connais un magasin où l'on en vend. Attendez seulement que j'ai touché mon traitement, mon chérubin adoré, ma Varinka. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Vous tenez donc absolument à partir pour les steppes avec M. Bikoff? Vous avez irrévocablement décidé de partir? De partir sans esprit de retour. Oh, ma petite mère. Non, vous m'écrirez encore. Vous m'enverrez encore une lettre pour me décrire tout en détail. Et quand vous serez loin, vous m'écrirez de là-bas également. Sinon, mon petit ange radieux, cette lettre-ci serait la dernière. Oh, comment se pourrait-il que cette lettre fût la dernière? C'est impossible, voyons. Pourquoi la dernière et pourquoi celle-ci, justement? Comme ça, tout à coup? Ben non, 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 j'écrirai encore. Et vous aussi, vous m'écrirez. Voyez, mon style est en train de se former. Mon ami, je me moque bien du style. En ce moment même, je ne sais même plus ce que j'écris. Je ne le sais pas. Je ne sais plus rien. Je ne me relis pas et je ne corrige pas mes phrases. J'écris pour écrire seulement, pour vous parler le plus longtemps possible. Oh, ma tourterelle, ma petite fille, ma petite mère.